ラフトレ
Bienvenue dans l'émission 45 de Jaf Tamer sur RLP 102.3 FM en Dordogne dans le Périgord et en direct sur Internet. Jaf Tamer, l'émission de l'association Équité Parentale. Aujourd'hui, un spécial actualité et PPL 3852 dont je vous reparlerai juste après. Damien Meurant pour la Marche des Pères, ainsi que Rodolphe pour l'association Un enfant, deux parents. Nous aurons également une intervention d'Aubéry Salcroix sur les débats que nous entendons actuellement sur l'avancée de la loi sur l'âge du consentement. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
RLP, Radio Libre en Périgord.
Voici donc venir un nouvel espoir pour le 25 mars dans la niche de l'UDI, une proposition de loi bien intéressante qui est l'héritière de celle proposée par Nicole Sanqueur dont nous avons parlé à l'été dernier, cette députée qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Voici donc la PPL 3852 qui sera présentée le 25 mars, nous l'espérons, et qui a été reprise cette fois-ci par Monsieur Grégory Labille, député. Alors, on explique que, en fait, cette proposition de loi a donc pour but de remplacer le premier alinéa de l'article 373-2-9 du Code civil et indique dans les grandes lignes qu'à défaut d'accord entre les parents sur le mode de résidence de l'enfant, le juge fixe prioritairement l'hébergement de l'enfant de manière équilibrée entre ses deux parents dans l'intérêt supérieur de celui-ci en application de l'article 371-1. Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance doit être adaptée dans le temps, en particulier du fait du très bas âge de l'enfant, il le précise sous forme de décision provisoire ou prévoit une autre modalité à échéance définie. Et surtout, lorsque l'enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve l'environnement habituel de l'enfant. C'est-à-dire que nous essayons d'obtenir que lorsque les parents ne s'entendent pas sur la garde de l'enfant, eh bien il y a résidence alternée et pour éviter l'idéologie et les schémas structurels familiaux totalement désuets qui existent dans l'environnement de la justice familiale, nous demandons au juge de motiver lorsqu'il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'en fait il le fait et s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a des raisons qu'il doit absolument décrire pour pouvoir éventuellement ensuite les faire changer. Ce sera, nous l'espérons, présenter le 25 mars. Nous encourageons tous les partisans de cette mesure à contacter leurs députés pour faire pression afin que ce soit voté, parce que je ne sais pas si nous aurons beaucoup de chance sous cette législature.
RLP, Radio Libre en Périgord.
Mais tout ceci ne se faisant pas tout seul, voici donc les entrevues ou entretiens avec les élus depuis novembre dernier, car je n'ai pas eu le temps de vous les raconter depuis. Donc en novembre, nous avons rencontré Marie-France Irigoyenne, psychothérapeute familiale, qui connaît bien la problématique, qui est rassurée que nous ne défendions pas que les pères, mais tous les parents. Et elle avance dans la connaissance de notre association. Nous avons rencontré le député LR du Loiret, M. Jean-Pierre Dor, qui est aussi vice-président de la commission des affaires sociales. Il est d'accord avec nous, mais il préfère attendre que la présidente de cette commission accepte d'inscrire ce sujet de RA dans leur programme. Ensuite, Madame Monique Limon, députée LAREM de l'Isère, qui est bien au fait du sujet à travers les commissions auxquelles elle a participé, qui a lu nos documents et qui va pousser dans ce sens. Madame Bénédicte Pétel, députée LAREM des Hauts-de-Seine, qui est une ancienne enseignante et qui est très au fait et motivée pour nous aider. Elle va échanger avec ses collègues de LAREM. Madame Hélène Conway-Mouret, vice-présidente des affaires sociales du Sénat, ancienne ministre des Français à l'étranger et spécialisée dans le social. Elle est l'auteur de la PPL 19628. Son groupe ne dispose que de 4 niches parlementaires. Sa PPL ne pourra pas figurer dans une niche, pourra débattue qu'à l'été ou l'automne 2021. Mais bon, d'ici là, elle ira rassurer les autres sénatrices et ça s'appelle sa PPL parce qu'elle a un projet aussi, elle aussi, pour donner un petit peu d'importance. Madame Maupetit, députée MoDem du Val-de-Marne, est coprésidente du groupe d'études droits de l'enfant et de la protection de la jeunesse de l'Assemblée. Elle est acquise à la résidence alternée, mais celle des parents, avec l'enfant qui reste dans l'appartement familial. Bon, il va falloir qu'on en reparle un petit peu avec elle. Quand même. On va lui donner des articles de spécialistes, des statistiques et des rapports pour lui prouver que la RA n'est pas nocive pour l'enfant. Et on devrait la revoir avant la mi-décembre. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a rencontré la collaboratrice de Tiffany Degois, la réputée LRM de Savoie. Elle nous connaissait grâce à l'association Jamais sans papa. Elle avait adressé en août la question écrite 22279 à la ministre de la Justice sur la préservation de l'égalité parentale. Elle se rapproche de ses collègues. Alors, autre shot en décembre, Jean-Louis Touraine, député LAREM du Rhône, vice-président des affaires sociales, qui est un médecin, qui est très au fait de ces problématiques et qui est convaincu de la nécessité de plus de résidences alternées. Il va se rapprocher d'Adrien Taquet pour tenter qu'il nous reçoive, ainsi que député motivé de son groupe pour voir comment pousser pour une loi plus juste, cadrant plus les juges et éviter le classique un week-end sur deux qui n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Pacôme Rupin, député LAREM de Paris, avec un retour très encourageant. Il est d'accord avec nous et il va... Alors attendez, parce que lui, il a écrit par courrier, c'est un petit peu long. Mais bon, en fait, je crois qu'il est acquis. Madame Lauriane Rossi, députée LAREM des Hauts-de-Seine, donc c'est la députée de la circonscription, du club des marâtres aussi, avec qui nous rencontrons les élus. Et elle aussi, c'est un sujet qui lui semble absolument incontournable. De manière plus récente, Alexandra Louis, le 21 janvier, députée LAREM des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des lois et coprésidente de la commission enfance. C'est une ex-avocate qui est active et engagée pour les droits de l'enfant. Elle comprend qu'il y a des dysfonctionnements majeurs dans le domaine familial. À mon avis, vu qu'elle était avocate, elle a connu le GAF en personne. Elle a pu voir ce qui se passait là-bas. Donc elle est favorable à notre but qu'elle partage. Elle préfère privilégier une formation adaptée des juges et des avocats plutôt de modifier la loi. Donc on va en reparler un peu. On a rencontré aussi la vice-présidente de l'EGPE, l'école des grands-parents européens. Alors eux, ils sont parfaitement en phase avec notre revendication parce qu'ils sont spécialisés dans l'accompagnement à l'écoute des grands-parents. Et effectivement, quand il y a rupture et qu'on ne voit plus un enfant, eh bien toute la branche, y compris les grands-parents, ne voient plus l'enfant non plus. Donc eux aussi, ils sont intéressés pour un partage équitable de l'enfant afin de garder à l'enfant un accès à ses grands-parents et au reste de sa famille. Voilà. Donc ils sont assez médiatisés et ils sont proches d'Adrien Taquet, qui leur a demandé de rédiger un rapport sur la grand-parentalité. Voilà. Monsieur Damien Adam, député LAREM de Seine-Maritime, convaincu par la justesse de notre revendication, il va écrire à Madame Moreno, Adrien Taquet et Monsieur Dupont-Moretti pour appuyer notre seule entrevue avec eux et voir s'il peut co-signer ou pousser la PPL de l'UDI, celle dont on est en train de parler. Monsieur Dupont-Moretti, d'ailleurs, qui ne parle que du pénal, des assises et autres, et qui a totalement oublié le familial et le civil dans tous ses discours et interventions politiques depuis qu'il est arrivé à sa fonction, en fait. Alors, Marie-France Irigoyen, toujours rencontrée le 16 janvier également, elle nous propose d'organiser cette fois-ci un groupe de travail auquel participerait avec d'autres pédopsychiatres. Donc on va essayer de regarder ça, ça peut être intéressant. Le 16 janvier, Jacqueline Philippe, présidente de l'association L'Enfant d'abord et auteur du livre Le livre dans la résidence alternée. Alors là, on avait peur que ce soit négatif, mais finalement non. Elle est favorable à ce que les pères voient un peu plus leurs enfants. Merci madame, c'est gentil. Mais elle a une position très ambiguë et contradictoire. On n'a pas très bien saisi et comment on pourrait... Mais bon, elle confirme qu'elle est opposée, par contre, à la résidence alternée. Mais bon, c'est pas grave, il faut aller voir aussi les gens qui sont opposés, il faut en parler avec eux, essayer de les convaincre, regarder pourquoi, enfin, quelles sont leurs positions et quelles sont les raisons qui les mettent dans cette position-là. Christophe Negelen, député UDI des Vosges, il a mieux compris notre problématique, on l'a déjà rencontré auparavant, et il va se rapprocher de ses collègues de l'UDI pour faire de la PPL, soit bien dans leur niche parlementaire du mois de mars, parce qu'ils ont une seule niche dans l'année, l'UDI, donc il faut vraiment qu'elle soit dedans. Voilà. Et enfin, le 29 janvier, l'attaché parlementaire de Catherine Fabre, députée LaREM de Gironde, est membre de la commission des affaires sociales. Elle nous conseille de sensibiliser les députés de la commission des lois, parce qu'ils sont plus en faveur de la RA. Elle va nous donner des noms de députés et continuer notre petit lobbying. Voilà, 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 voilà.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Damien Meurant. Damien Meurant qui organise une marche pour les pères. Damien, tu es avec nous ?
Je suis avec vous, bonjour.
Bonjour, ça va bien ?
Ça va, merci.
Alors, quel est ce projet ? Explique-nous un petit peu.
Alors je me présente, moi c'est Meurant Damien, donc j'ai 36 ans, j'ai eu deux enfants, effectivement je suis le papa de deux enfants. Comme beaucoup de papas, j'ai connu par le passé des situations complexes et je me suis mis à l'initiative d'une marche de 800 km. Donc c'est une marche de 800 km qui va partir de Marseille pour aller jusqu'à Paris. 800 km en 40 étapes, donc ça sera 40 jours de marche. Nous serons rejoints par de nombreux pères, nous partirons par groupe de 5, on sera un groupe de 5. Et nous avons deux revendications, donc le but c'est d'essayer de toucher des gens comme Adrien Taquet, d'être reçu partout où on peut mettre la lumière sur le manque d'égalité parentale. Donc nous avons deux réclamations importantes, c'est plus d'égalité parentale à travers la garde alternée, on connaît les pourcentages qui sont complètement alarmants pour les pourcentages de l'INSEE, je crois qu'on parle de 18% si je me trompe pas.
Oui, on a du mal à les avoir, et puis surtout le problème sont les gens qui n'osent pas la réclamer parce qu'ils savent qu'ils ont peu de chance, mais effectivement, oui, nous comprenons ce que tu dis.
Tout à fait. Et l'application des lois en place pour les néreux. En ce moment, je suis beaucoup en contact avec de nombreux pères, de par le montage du projet, et j'entends des histoires complètement folles de papas qui ne voient pas leur enfant pendant 3, 4 ans, 5 ans par rapport à une succession de non-présentation d'enfants.
Devant la différence générale, des policiers, des forces qui ne se déplacent pas lorsque les droits de visite ne sont pas respectés. Tout à fait, absolument. Oui, oui.
Voilà, exactement. Donc, nous montons ce projet dans le but de mettre vraiment la lumière sur le manque d'égalité parentale. C'est une marche qui se veut être la succession un petit peu de ce qu'ont fait les papas perchés, c'est-à-dire c'était 5 personnes qui sont parties de l'Est de la France pour aller jusqu'à Paris. Ils sont arrivés à être reçus à l'Élysée par les politiciens, quoi. Ils sont arrivés à amener leurs revendications aux gens qui prennent les décisions et surtout être médiatisés dans le but non pas de montrer sa personne, mais de mettre vraiment la lumière sur le problème national, qui est un peu, je dirais, mis sous le tapis. Hein. Voilà quoi.
Bon, alors vous partez quand de Marseille ?
Alors nous partons le 10 novembre, donc nous partons du grand centre commercial Grand Littoral.
Le 10 novembre 2021 ?
Tout à fait,
d'accord.
De cette année.
D'accord.
Et nous arrivons le 17 décembre à Paris.
D'accord, donc on peut espérer qu'il n'y aura plus de Covid. Et d'ores et déjà, il y a une page Facebook, une communauté qui se crée, j'ai cru voir quelques centaines de personnes qui vous rejoignaient.
Tout à fait. Donc le groupe s'appelle la Marche des Pères. Il y a un groupe privé, donc j'invite tout le monde à s'y joindre, qui permet donc de communiquer entre nous, d'échanger les idées, de monter le projet concrètement, et un blog personnel, donc qui est vraiment fait pour la communication, hein, qui est où on monte les affiches, où tout le monde peut pas tout partager, quoi.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, nous donnons rendez-vous à tout le monde sur cette page Facebook que vous venez de citer. Et puis, d'ici novembre, nous aurons le temps, on en reparlera, nous ferons des shots de rappel. Et j'espère que ce projet se mettra bien en place. Voilà. Merci Damien, merci, à bientôt.
Merci à vous, merci.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Rodolphe de Un enfant, deux parents que nous avons tous bien connu au printemps dernier pour ce sympathique rassemblement sur Paris. Rodolphe, tu es avec nous ?
Oui, bonjour à tous.
Super, merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre actualité, de tout ce qui va venir là ?
Alors oui, alors donc nous sommes l'association Un enfant, deux parents France. Donc on a prévu un rassemblement le 25 avril, le dimanche 25 avril, qui est la journée de lutte contre l'aliénation parentale. On sera, on espère, très nombreux Voilà, notamment aura des membres de la Marche des Pères, donc Damien qui sera présent. Et voilà, on va donc faire un rassemblement itinérant qui ira donc de Nation jusqu'à l'Assemblée nationale, ce qui fait à peu près 6 kilomètres. On aura des tracts, des banderoles, on va essayer d'haranguer un peu les gens pour expliquer le contexte dans pourquoi on est dans la rue, pourquoi on est là, pourquoi un dimanche on n'est pas en train de faire toute autre chose et que ça nous tient à cœur d'être là et de dire notre ras-le-bol par rapport à Sainte Justice. Nos revendications, la principale revendication, c'est ce qui est notamment dans la PPL, je ne sais plus le nombre, qui est en cours au gouvernement, qui est sur la résidence alternée.
Oui, qui devrait être débattue en mars et qui est l'héritière en fait de la proposition de Nicole Sanker, la députée de Tahiti, d'outre-mer, qui a été un petit peu réécrite et qui est bien intéressante. Donc vous, un enfant de parents, est-ce que l'association a été créée ?
Oui, l'association a été créée fin novembre 2020.
Donc, loi 1901, qui est-ce qui est président ?
C'est moi-même.
Bravo, félicitations, chers collègues.
Merci. Merci.
D'accord. Et vous avez un site internet, comment on vous trouve en fait ?
Alors, on a notamment un site internet qui est unenfantdeparents.com.
D'accord.
Voilà, qui est en pleine refonte actuellement. Et on a aussi deux groupes Facebook. Un groupe Facebook qui est Un enfant, deux parents France.
D'accord.
Et un autre groupe Facebook qui est tout récent, qui est Un enfant de parents Belgique, parce qu'on s'est allié avec la Belgique en se rendant compte que finalement les problématiques qu'il y avait en France étaient très similaires avec ce qu'il y avait en Belgique. Donc on essaye de faire des rapprochements avec des papas francophones et de voir d'échanger entre nous sur les différentes problématiques. Donc les NRE, les non-représentations d'enfants, ils connaissent très bien et c'est exactement la même problématique. On les enchaîne malheureusement, on fait des plaintes au commissariat et rien ne se passe. Et après.
Ils ne se déplacent pas non plus, je crois, là-bas d'ailleurs.
Voilà, c'est vraiment très très similaire. C'est très très similaire. C'est peut-être même plus trash, on va dire, que chez nous, mais moi j'ai un très très bon feeling avec un autre papa qui est là-bas et qui s'occupe de ce groupe-là. Donc on fait notamment des lives pour expliquer un peu ce qui se fait dans l'association pour que les gens soient au courant. Et on espère, en s'y prenant longtemps à l'avance pour ce rassemblement, qu'il y ait plein de parents, et j'insiste bien, plein de parents, que ça soit des papas, des mamans, des papis, des mamies,
Parce qu'effectivement, c'est l'occasion, maintenant que tu es là pour nous en parler, ce n'est pas réservé aux papas, c'est réservé à tous les parents qui sont victimes d'exclusion parentale, qui ont du mal à accéder à leurs enfants, c'est bien cela.
C'est ça. Oui. Et moi, j'irais même plus loin, c'est que les principales victimes, ce sont les enfants. Et on oublie très souvent, malheureusement, que ce sont eux les principales victimes. On a tendance à
vouloir... Et tous les dommages collatéraux, les grands-parents, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Dès qu'il y a une rupture de l'une des deux branches de l'enfant, c'est la moitié de l'arbre qui disparaît et il y a beaucoup, ça rend beaucoup de monde. D'accord. Très bien. C'est... Eh bien, écoute, nous ferons des piqûres de rappel pour cette date que tu nous rappelles, qui est donc le...
Le dimanche 25 avril.
Eh bien, c'est parfait. Merci, Rodolphe. À bientôt. Au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Aubéry Salcroix qui est maintenant prof de droit à Aix-en-Provence. Aubéry, vous allez bien ?
Oui, je vais très bien, Stéphane. Merci.
Eh bien, écoutez, super. Alors, on parle beaucoup en ce moment de ce projet de loi qui est passé devant le Sénat sur le consentement des mineurs. On entend absolument tout et n'importe quoi. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qu'il en est ?
Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats actuellement. En fait, pour resituer les choses, à l'heure actuelle, quand on regarde le code pénal, tout acte de nature sexuelle sur un mineur de 15 ans, donc c'est-à-dire un mineur qui a moins de 15 ans, c'est considéré comme une atteinte sexuelle et c'est puni de 7 ans d'emprisonnement. Et ensuite, c'est en fonction des circonstances qu'on va déterminer s'il y a agression sexuelle ou viol. C'est-à-dire que pour aboutir à un viol, il faudra prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, que l'enfant ait plus ou moins de 15 ans. D'accord ?
D'accord.
Après, la difficulté est venue en 2017 surtout. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu deux affaires particulièrement médiatiques où deux hommes, alors c'est deux affaires complètement différentes, ont été l'un acquitté et l'autre, il y a eu une requalification en atteinte sexuelle pour des viols sur des fillettes de 11 ans. Voilà, donc c'était des plaintes pour viol qui avaient été déposées. Il y en a un qui a été purement et simplement relaxé, donc acquitté, donc pas du tout de poursuite, pas de peine, rien du tout. Et l'autre, il a été condamné, mais seulement pour atteinte sexuelle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est seulement 7 ans d'emprisonnement. Donc, oui, dans ce contexte-là,
ça avait fait débat à l'époque d'ailleurs. Ça avait choqué beaucoup de gens parce qu'à 11 ans, comment on peut être consentant? Comment peut-on dire non à 11 ans? Si on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui, il n'y a pas de consentement, ça n'existe pas.
Voilà, et ben c'est toute la difficulté, c'est que en fait avec la législation actuelle, on est obligé de savoir si l'enfant a eu un comportement, s'il a été contraint, s'il a été menacé ou s'il a été violenté. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à démontrer ça, le problème c'est qu'il y a une requalification. Donc dans cette veine-là, tentative de réforme législative, c'est ce qu'on a appelé la loi Schiappa, qui est arrivée en 2018, enfin la tentative pour essayer d'instaurer un seuil de non-consentement et à l'époque, il était fixé à 15 ans. Et ce seuil visait à qualifier de viol tout acte sexuel commis sur un mineur de 15 ans ou moins. Donc il y avait une présomption de culpabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant avait moins de 15 ans, on présumait que de toute façon, il y avait viol.
D'accord, c'était pas une régression, c'était une progression.
Parce qu'effectivement, un mineur de 15 ans, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de concevoir qu'il ait un consentement à l'acte sexuel, ou du moins en saisissant exactement la portée. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, le Conseil d'État a laissé entendre que ce projet de loi serait en fait anticonstitutionnel parce que c'est une présomption de culpabilité. Alors, il y en a en France des présomptions de culpabilité, mais ça doit rester exceptionnel et surtout, on doit pouvoir mettre en mesure la personne qui est accusée de se défendre et de rapporter la preuve contraire. Or là, avec le texte de la loi Schiappa, c'était pas possible. Donc, on a abandonné ce projet-là. Maintenant, l'actualité est quand même assez riche, surtout dernièrement, d'agressions, d'incestes et autres. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de qualification autonome d'inceste dans le code. Ça reste ni plus ni moins qu'un viol avec une circonstance aggravante, à savoir commis par un ascendant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour coller à l'actualité, on a repris le projet de loi, mais on l'a réécrit. C'est-à-dire qu'on a instauré une simple présomption de contrainte pour les mineurs de 15 ans. Donc, en gros, un rapport sexuel entre un majeur et un mineur de 15 ans, c'est pas systématiquement un viol. Il faut toujours caractériser la menace, la violence, la contrainte ou la surprise. Mais quand il a moins de 15 ans, elle est présumée quand même. On pourra tirer cette idée de contrainte ou de surprise de l'ignorance de la victime. Et effectivement, en dessous de 15 ans, même sans être complètement ignorant, on peut considérer que le mineur n'a pas entièrement conscience de ce à quoi il consent.
Je crois que l'on prend en compte aussi l'écart d'âge, c'est-à-dire que si jamais ce sont des ados qui s'amusent un petit peu entre eux, c'est pas la même chose que si un prof de 50 ans vient et s'approche un peu trop près.
Oui, alors ça c'est dans les faits, mais textuellement, si on en va par là, un majeur de 18 ans qui a des rapports sexuels avec une mineure de 16 ans, ça n'empêche qu'il y a quand même atteinte sexuelle à l'heure actuelle. Viol, mais atteinte sexuelle. Donc, si vous voulez, c'est pour ça aussi qu'il y a cet élément-là à prendre en compte, qui fait qu'on ne peut pas dire qu'en dessous de 15 ans pile, il n'y a pas du tout de consentement, ou en dessous de 13 ans, c'est arbitraire, etc. Et donc, quand on a réformé ce texte en parlant de la contrainte morale ou de la surprise qui serait tirée de l'ignorance de la victime, il y a eu un gros débat, en fait, entre la commission des lois qui est au Sénat, qui voulait supprimer tout seuil d'âge et créer une sorte de présomption de contrainte, quel que soit l'âge du mineur. Après, c'est le juge, en fonction justement de la différence d'âge ou de la capacité de discernement du mineur, qui estime qu'il y a ou non infraction pénale. Et de l'autre côté, on avait la délégation aux droits des femmes qui, elle, était favorable à une présomption de non-consentement pour les mineurs de 13 ans, donc les mineurs qui ont 13 ans et en dessous. Et là, actuellement, c'est vrai que le débat est vraiment cristallisé autour de ça. Pourquoi ? Bah parce que on a eu une proposition de loi qui a été déposée par Annick Billon, qui est la présidente en fait de la délégation aux droits des femmes. Et cette proposition de loi établit une sorte de consensus avec la commission. En fait, son texte introduit une infraction autonome de celle du viol. C'est-à-dire que, du coup, il n'y a pas d'inconstitutionnalité puisqu'on est sur une nouvelle infraction. Et dans cette nouvelle infraction, si jamais elle est adoptée, on considère que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, parce que ça aussi, ça portait sujet à débat, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Et effectivement, à 13 ans, on ne peut pas douter que la personne est mineure. Donc, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus d'inconstitutionnalité parce que on a quand même la possibilité de rapporter la preuve qu'on ignorait l'âge de la victime.
Donc,
concrètement, vous le comprenez comme moi, ignorer que la gamine a 13 ans, ou l'enfant, hein, ou le gamin a 13 ans, ça va quand même être particulièrement compliqué. Mais bon, sur le plan de la forme, au moins la possibilité est là. Donc, l'avantage de cette incrimination, c'est que le comportement de l'enfant n'est plus interrogé. Donc, on ne se demande pas est-ce qu'il était consentant ou pas, est-ce qu'il a eu une attitude provocante ou pas. Enfin, ma part, en dessous de 13 ans, une attitude provocante, je ne conçois pas, mais bon. Donc, en fait, si vous voulez, ça revient un petit peu à remettre en place une présomption, parce que l'auteur aura énormément de mal à contredire la connaissance qu'il avait de l'âge du mineur.
D'accord. Et donc, tout ceci, pour l'instant, ce n'est pas voté, c'est encore en débat, nous en sommes au Sénat.
C'est encore en débat, mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est-à-dire que ça règle le sort des mineurs de 13 ans, mais reste ce qui se passe entre 13 et 15 ans.
D'accord.
Et là, le consensus, puisque je vous ai dit, le clivage était sur ce seuil de 13 ans, et là, le consensus a été fait avec la commission du Sénat, avec un amendement qui met une présomption simple de contrainte entre 13 et 15 ans. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, non, le texte qui est là, qui est en cours d'examen actuellement, n'est pas plus favorable et ne va pas permettre des atteintes sexuelles. On ne dit pas qu'au-dessus de 13 ans, le mineur est consentant. D'accord.
C'est juste que
la présomption est toujours là, mais elle est simple pour des raisons de constitutionnalité, de respect des droits de la défense. Mais un viol ou une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans demeure puni. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la répression est même facilitée du fait de cette présomption. La preuve à rapporter sera nettement plus simple pour la victime et pour le ministère public que ce qu'il y a actuellement.
Donc nous nous orientons vers un durcissement, en fait, des comportements déviants. Mais par contre, ça n'a pas encore été voté, nous sommes encore au stade des débats. Et est-ce qu'il y a une date, un objectif, quelque chose, une deadline là ?
Non, pas à ma connaissance. Je sais que le texte avait été réexaminé le 21 janvier, d'où l'amendement. Et là, c'est encore en discussion. Mais vu le contexte médiatique, je ne doute pas que ça va être approuvé à bref délai.
Bon.
Puisqu'on est toujours dans une politique de réaction à l'opinion publique.
Ouais, c'est très bien dit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Merci.
Je vous en prie.
À bientôt.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Rediffusion mercredi prochain à 16h. N'oubliez pas les groupes Facebook, les petits pouces bleus si vous écoutez sur YouTube. Vendredi prochain, interview très intéressante et cruciale avec Madame Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS, ainsi qu'à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui intervient également à l'École des psychologues praticiens. Elle travaille sur le masculin et le féminin et a déjà produit une vingtaine d'ouvrages. Nous noterons d'ailleurs en 2020 la sortie de L'instinct paternel aux éditions Larousse, plaidoyer en faveur des nouveaux pères, ainsi que Les hommes aussi viennent de Vénus, fort et sensible, les nouveaux visages de la virilité, toujours chez Larousse, et Si on réinventait l'éducation des garçons, petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux, chez Nathan. Nous avons déjà enregistré donc une émission en fait en deux parties, et vous allez voir, ça vaut vraiment la peine, et ce sera vraiment passionnant. À la semaine prochaine, à bientôt, ciao ciao.
Laughter!